Et nous sommes en compagnie de Philippe Charlez, toujours présent, Yves-Marie Sevilla et Gérard Gachet, les frères musulmans. Vous avez organisé, Nicolas B, un fin avril, des discussions à Strasbourg sur l'influence de la confrérie des frères musulmans. Alors l'objectif, c'était de répondre à la naïveté occidentale, hein, je vous cite, et de défendre nos valeurs. Vous dites que c'est une priorité absolue et je pense que vous aurez beaucoup d'accord sur ce point de la part des auditeurs de Radio Courtoisie. Alors, on va vous entendre. Je voulais qu'on ait un aperçu de votre accent anglais, notamment, et vous avez diffusé ce message. C'était le 30 avril dernier.
Muslim Brotherhood Terrorist Organization. Did you know that the Muslim Brotherhood is everywhere in Europe today? European money must not finance radical Islam. Austria, Egypt, and United Arab Emirates have united in Brotherhood as terrorists. France and Netherlands intend to do the same. We must put the Muslim Brotherhood in the European list of terrorist organizations.
Voilà, c'est un. Il y a une petite. Absolument.
J'accepte volontiers.
Une petite erreur.
Les moqueries là-dessus. Parce
voilà, on voudrait vous entendre.
Non, non, mais c'était drôle. En tout cas, vous disiez, nous devons mettre les frères musulmans sur la liste des organisations terroristes. Alors, dites-nous, quel était l'objectif de cette réunion? Qui était là et pourquoi est-ce que vous avez organisé ça?
Alors, c'est bien simple, c'était lors de la dernière session à Strasbourg, en effet, ouais. Le dernier jour du mois d'avril. Nous avons organisé j'ai pris l'initiative de cette conférence avec trois députés européens du groupe PPE, dont deux Français, Christophe Gomard, qui est général de corps d'armée, qui avant d'être parlementaire européen, a été directeur du renseignement militaire et commandant des forces spéciales, et une autre Française, Céline Imar, que certains de vos auditeurs doivent connaître,
voilà.
Exactement. Et puis également
un député européen
hein. Tchèque, ouais. Mon ami Carlo Fidanza, qui siège avec moi dans le groupe ECR, qui est le chef de la délégation de Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni, et puis un collègue néerlandais, parce que du groupe ECR également. Donc c'était un peu un laboratoire d'union des droites, on peut dire, cette conférence, sur la forme, mais sur le fond, c'était sur
c'est,
ce sujet
c'est
des
frères musulmans. C'est déjà assez remarquable,
oui.
Et assez rare pour être souligné.
Ça montre aussi une évolution importante en Europe et au Parlement européen, dont j'espère qu'elle prendra forme un jour en France, et le plus tôt possible, c'est que finalement, quand les droites s'unissent, elles parviennent à avoir une majorité. On a eu, je fais une incise, il y a quelques semaines, un vote très important dans la Commission des libertés civiles où je siège sur le règlement retour. Le règlement retour, c'est la simplification et l'harmonisation des procédures d'expulsion des clandestins
à
l'échelle européenne.
Ouais.
Et ce texte a recueilli une majorité absolue parce que le PPE a fait preuve de courage, ça arrive
qui
parfois.
Qui est le parti de centre droit européen.
Ils ont écouté leurs électeurs. Il faut reconnaître d'ailleurs que François-Xavier Bellamy, etc., ont été un peu moteurs pour inciter le PPE à faire l'alliance des droites avec le groupe ECR et avec d'ailleurs d'autres groupes. Et le résultat, eh bien, c'est qu'on a une majorité absolue sur un sujet fondamental, qui est le sujet de l'immigration et donc de la préservation de notre identité et de notre sécurité. Je referme la parenthèse pour revenir sur les frères musulmans. Quel est le constat? Le constat, c'est que le développement de l'islamisme...
C'était une conférence, hein, c'est ça hein.
Oui, c'est ça, c'était
une discussion, un colloque,
pour essayer de voir quels sont les outils à mettre en œuvre à l'échelle européenne et en politique européenne, en soutien aux États pour lutter contre le frérisme, c'est-à-dire les frères musulmans, leur organisation et leur influence. Le constat est le suivant, c'est que l'islamisme prospère en Europe souvent parce que les frères musulmans savent agir efficacement sur le continent européen en avançant masqué, dans la dissimulation. C'est une différence importante. Les frères musulmans, ce sont les salafistes, la même idéologie, mais en costard-cravate avec une barbe bien taillée, voilà, pour dire les choses simplement. C'est-à-dire que c'est une confrérie qui a été créée il y a un peu plus d'un siècle, en 1928, par le grand-père de Tariq Ramadan, en Égypte. Les pays, d'ailleurs, comme l'Égypte ou les Émirats Arabes Unis, l'ambassadeur des Émirats était présent à notre conférence et est intervenu, une intervention remarquable, sont en première ligne face à ce phénomène des frères musulmans de longue date. Aujourd'hui, en Europe, on le voit, ils se développent partout. Leur stratégie est simple, c'est l'entrisme. C'est-à-dire qu'ils imprègnent le tissu économique, le tissu social, les associations, les clubs de foot, le soutien scolaire, etc. Mais au service d'une idéologie avec un objectif clair, c'est appliquer la charia sur le territoire qu'ils sont en train de conquérir. Donc, ils ont les apparences de la modération sur nos critères européens ou occidentaux, mais en réalité, quand on creuse un peu, leur idéologie est claire, c'est une idéologie extrêmement dangereuse.
Ils l'ont écrite, hein, d'ailleurs. Hein.
Bien sûr, ils ont d'ailleurs...
C'est à l'air libre.
Donc ils n'avancent pas vraiment masqués.
Non, en réalité, quand on creuse un peu, on voit tout de suite, ils ont des prédicateurs qui sont extrêmement radicaux, ils ont des livres, des références, etc., qui sont celles de l'islam radical, mais... comme ils ont l'apparence occidentale, en quelque sorte, dans leur attitude, dans leur manière de parler, dans leur manière de s'habiller, eh bien, il y en a beaucoup qui se font avoir, en quelque sorte. Il y a d'ailleurs un double phénomène qui est cumulatif, c'est-à-dire il y a ceux qui font, dans les pouvoirs publics, qui font preuve de naïveté à l'égard des frères musulmans. Il y a, on a des musulmans qui sont des interlocuteurs qui ont l'air sérieux, on va leur donner un terrain, on va leur permettre de construire leur mosquée, ils vont pouvoir construire leur école coranique, etc. Et puis, ils s'installent, ils prospèrent, ou on leur laisse prendre la main sur telle ou telle association. Et souvent, il y a une forme de naïveté. Et puis, il y a aussi de la lâcheté et du cynisme, c'est-à-dire ceux qui disent, oulala, ils sont très nombreux, il vaut mieux en faire une clientèle électorale. C'est-à-dire, c'est un calcul de très court terme, parce qu'on a vu que c'est ensuite, une fois qu'ils ont pris pied dans une municipalité, ils renversent la droite ou la fausse droite ou la vraie gauche qui leur a mis le pied à l'étrier en constituant leur propre liste aux élections municipales et en gagnant au détriment de ceux qui ont été initialement leurs protecteurs. On en a eu quelques exemples aux municipales il y a quelques semaines. Donc, mais c'est une stratégie donc à la fois de dissimulation au départ, d'imprégnation et d'infiltration qui fait qu'aujourd'hui on a des villes, des quartiers entiers qui sont gangrénés.
Alors justement, ces frères musulmans, vous voulez les mettre sur la liste des organisations terroristes. C'est une demande grave que vous avez formulée. Quelle est cette liste? Et puis après ça, je donnerai la parole à Yves-Marie Sevilla.
Le constat, c'est que c'est à la fois...
Qu'est-ce que ça signifierait pour cette
organisation? À la fois, les frères musulmans sont très identifiables dans leur idéologie, dans leur prédicateur, mais ils sont en même temps insaisissables. Insaisissables parce qu'ils n'ont pas une organisation pyramidale, il n'y a pas un numéro de sigrette avec un président en exercice et une déclaration
en préfecture. Et un numéro de téléphone du siège exactement. Social. Ouais.
Donc, ils ont un fonctionnement polymorphe qui les rend un peu insaisissables. Et donc, ce qui les caractérise, ce qui les définit, finalement, c'est essentiellement leur idéologie et marginalement leur méthode. Mais parce qu'ils sont un peu insaisissables, tout le monde a dit depuis des décennies, on ne sait pas trop comment s'y prendre, donc on laisse faire. Et d'ailleurs, c'est un peu le sens du rapport ministériel d'il y a quelques mois, enfin un an maintenant, sur les frères musulmans, qui faisait un constat alarmant, qui disait, le rapport ministériel aux fonctionnaires de Beauvau, etc., qui disait, il y a une situation catastrophique avec une prolifération partout des frères musulmans, c'était ça le rapport. Mais sans forcément apporter des vraies pistes de comment les contrer. Et il y a des pays qui ont pris le problème à bras-le-corps. Je citais les Émirats Arabes Unis, mais en Europe, il y a l'Autriche qui a réussi à en faire une définition juridique, ce qui n'est pas très facile, mais une définition juridique qui permet de les mettre sur la liste des organisations terroristes. Il y a le Parlement néerlandais qui a pris une initiative du même type, qui n'a pas encore abouti, mais qui aboutira vraisemblablement. Eux sont très lourdement aux Pays-Bas confrontés à ce problème des frères musulmans. Et donc, ce que nous proposons, l'une des pistes, ce n'est pas la seule, et évidemment, c'est un combat à mener sur le terrain de grande ampleur, qu'il ne faut pas négliger, mais les mettre sur la liste d'organisations terroristes à l'échelle continentale, ce serait quand même un signal très fort, et un signal aussi très fort à l'égard de tous les pays qui en sont les soutiens. Parce que c'est vrai de la Turquie, c'est vrai du Qatar et de toutes sortes de pays qui sont bien traités par la France, bien traités par l'Europe. Si leurs protégés sont sur la liste des organisations terroristes, ça change un peu la donne.
On a bien compris l'intérêt. Yves-Marie Sevilla, une question pour vous et puis ensuite Gérard Gachet.
Que pensez-vous effectivement de ce phénomène d'entrisme qui a montrer son visage, une partie de son visage lors des dernières élections municipales, et notamment la présence de musulmans qui pouvant avoir des liens avec le frérisme au sein de listes comme à la France Insoumise ou dans différents mouvements d'extrême gauche, et notamment la présence aussi d'élus voilés au conseil municipal.
En fait, on a eu au municipal, dans un certain nombre de villes, la victoire de l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire la jonction directe, très claire et assez flagrante, hein, entre LFI, qui était souvent l'étiquette électorale officielle, et des personnes qui sont dans une logique séparatiste. Voilà. Et qui, d'ailleurs, ont démontré qu'ils étaient... C'est pas, quand je dis ça, c'est pas simplement une accusation que nous formulons à l'égard de gens qui, manifestement, n'ont pas les mêmes valeurs que nous, ne respectent pas les mêmes règles. Bon, on l'a vu dans leur comportement. Le soir des élections, ils ont parfois chassé par la violence, la brutalité, les équipes sortantes. Alors qu'il n'y avait absolument aucune raison. Je veux dire, on est à un processus électoral municipal, il y a parfois des maires qui sont réélus, d'autres qui sont battus, c'est le jeu démocratique classique. D'un seul coup, des maires qui ne suscitaient aucune animosité particulière se font insulter, huer, bousculer, chasser par des gens qui sont d'une logique de conquête de territoire. C'est-à-dire, c'est là où il y a une rupture très profonde avec notre culture française, européenne, chrétienne. C'est que ces gens-là considèrent que gagner les élections face à une équipe sortante, qu'elle soit d'ailleurs de droite, de centre-droite, peu importe, c'est une conquête de territoire. C'est une ville qui tombe dans leur escarcelle. C'est un territoire qui, pour eux, est entre leurs mains, conquis, et dont ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Ça montre une approche qui, en réalité, n'est pas une approche politique et démocratique. Ça montre une approche qui est une approche de conquête territoriale, guerrière. En réalité, ça veut dire qu'ils utilisent les élections, ils utilisent même, en vrai, l'étiquette LFI, puisqu'ils obtiennent facilement l'investiture, au service d'un projet de conquête territoriale de la France.
Ouais. Et c'est vrai que ça permettrait de communiquer là-dessus. Gérard Gachet.
Je voulais savoir, est-ce que dans cette lutte contre le frérisme, est-ce que vous êtes en relation, est-ce que vous travaillez avec le Centre européen de recherche et d'information sur le frérisme qui a été créé par Mme Florence Bergeau-Blackler, qui est quand même une des grandes spécialistes aussi de l'infiltration des frères musulmans dans la société française et européenne maintenant.
Absolument, et qui fait un travail extraordinaire.
Absolument, elle avait été sans doute une des premières à alerter sur le frérisme et à en décortiquer le fonctionnement, les ramifications, etc. Donc on a... Voilà, ça fait partie des organisations avec lesquelles on a des liens. Chacun est aussi dans son couloir, hein, pour dire les choses simplement. C'est-à-dire que c'est parfaitement légitime. Elle ne souhaite pas, Florence Bergeau-Blackler, entrer dans le champ politique ou électoral, puisque ce n'est pas son sujet. Mais
comme elle a un centre européen sur le frérisme, vous pourriez être en relation.
Et surtout, ils font un travail intéressant, c'est qu'ils identifient la propagation du frérisme pays européen par pays européen. Moi, j'avais fait un travail à mon échelle, plus modeste, en 2018 déjà là-dessus, un rapport d'une centaine de pages qui essayait d'identifier déjà la pénétration du frérisme dans les différents pays européens. Il y a des grandes disparités d'ailleurs. Hein. En réalité, les pays qui sont les plus touchés, sans surprise, c'est ceux qui ont été les plus touchés par l'immigration arabo-musulmane depuis quelques décennies. Mais il y a aussi des particularités. Notamment dans les pays d'Europe centrale où l'islam à la fois des pays du Golfe et de Turquie se déploie à vitesse accélérée, y compris dans des territoires qui n'ont pas été touchés par l'immigration. Voilà. Et ils arrivent, ils financent des écoles, des organisations, des mosquées, etc. Donc on a tendance, à juste raison d'ailleurs, à voir la carte de l'islam politique comme un décalque la carte de l'immigration. C'est largement vrai et flagrant dans des pays comme la France ou la Belgique, ou même comme le Royaume-Uni. Mais en réalité, on a aussi un sujet un peu différent sur l'Europe centrale, les Balkans, etc., avec une prolifération assez spectaculaire de l'islam radical.
Alors, on parlera du rôle des Émirats Arabes Unis, mais d'abord une question de Philippe Charlez.
Oui, alors un peu plus général, est-ce que vous ne croyez pas que les frères musulmans... C'est un peu la partie émergée de l'iceberg, ou on va dire l'arbre qui cache la forêt. Alors moi, je suis en train de lire, plongé dans ce remarquable livre de Fergan Aziari qui s'appelle « L'islam contre la modernité ». Je ne sais pas si vous l'avez lu. Non, alors je vous le conseille. Donc où il explique décrit que l'islam est une pensée complètement régressive dont l'idéologie est opposée au développement humain au sens large. Et donc j'avais deux questions un petit peu...
provocatrice, à votre habitude.
Oui. Est-ce que le problème de fond, finalement, c'est pas l'islam et l'islamisme, et est-ce qu'à votre avis, l'islam est-il compatible ou pas avec la démocratie? J'ai bien dit l'islam, je n'ai pas dit l'islamisme. Là,
vous avez 40 secondes.
Non, ça, ça ouvre un grand débat. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aurait pas d'islamisme sans islam, ça c'est évident. Ce qu'on sait aussi, c'est que, par exemple, les populations qui se déclarent musulmanes dans les sondages en France, notamment les jeunes générations, sont de plus en plus radicales. De plus en plus favorable à l'application de la charia,
c'est très
etc.
net dans les sondages.
C'est très net, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ces populations, même de 3e, 4e génération, sont prises en main par l'islam radical. Le fahéisme, le salafisme, etc. Et si elles sont prises en main et perméables à ce point à l'islam radical, même quand ça fait 30, 40, 50 ans que eux et leur famille sont installés sur le territoire français, eh bien c'est sans doute parce qu'il n'y a pas en face du discours radical un discours alternatif d'un islam modéré ou réformé.
Mais c'est, qui en réalité n'existe pas. Complètement illusoire.
Voilà, exactement.
Ouais. Et donc, faut lire, lire Houellebecq.
C'est exactement ça. Voilà. Et en fait, on touche là au nœud du problème. C'est-à-dire que celui qui... Ce qui est vrai, c'est qu'on en connaît tous d'ailleurs. Il y a des personnes de confession musulmane qui, comment dire, vivent leur foi de manière modérée, en respectant les institutions. Ça, ça existe. Mmh. Individuellement, incontestablement, il y en a.
Il y en a même qui sont assez patriotes.
Mais souvent,
malheureusement,
oui,
ils ne sont pas majoritaires.
Mais souvent, ça résulte plutôt d'un habitus, d'une pratique personnelle, ou même pratique familiale ou collective. Mais ça ne correspond pas à une théologie. Et par conséquent, ces personnes qui sont sincèrement modérées sont souvent... bien en difficulté dans une vraie argumentation
vis-à-vis de l'ensemble
face à des représentants de d'une vision intégrale, je ne parle même pas d'intégrisme, mais intégrale de l'islam. Et là, on touche au fond du problème, c'est qu'on a tendance à voir, c'est un tort, l'islam comme une religion comme une autre, au sens analogue aux autres religions monothéistes, le christianisme, le judaïsme, etc. Alors que... l'islam n'est pas qu'une spiritualité,
c'est projet
une
politique.
Organisation politique et sociale.
Ben
oui,
c'est
non seulement un projet politique,
loi,
mais même une organisation, et surtout, plus grave encore, je terminerai là-dessus, une organisation politique et sociale qui est insusceptible d'interprétation. Voilà, ce qui complique encore les choses, parce que si vous ne faites pas d'interprétation de l'Ancien Testament, ça peut vous conduire à faire des horreurs. Mais comme l'interprétation est possible, et notamment l'interprétation à l'aune du Nouveau Testament, eh bien évidemment, ça prend une toute autre dimension. Alors que dans l'islam, le message ne pouvant pas être interprété, il est souvent perçu à la lettre. Pas forcément appliqué heureusement par tous à la lettre, mais ça reste la philosophie dominante, et donc c'est ça qui pose problème. Et désolé d'être un peu long, et enfin, parce que c'est une organisation politique et sociale et pas qu'une spiritualité, il n'y a pas ce qui est à l'origine de notre organisation politique et sociale à nous, c'est-à-dire la distinction entre les ordres temporel et spirituel, c'est-à-dire à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César, qui en réalité n'est pas la gauche laïque qui a inventé ça. Elle a dévoyé la saine laïcité, qui est la neutralité philosophique et religieuse des institutions. Mais c'est le christianisme qui en réalité a créé la laïcité. C'est-à-dire distinguer le temporel et le spirituel. Même si dans l'histoire, il y a eu des périodes...
C'est quand même très discutable, c'est-à-dire que je suis d'accord avec vous, je ne suis pas un grand spécialiste, que le christianisme à la base n'est pas un projet politique, mais il a quand même largement été instrumentalisé comme projet politique au cours de l'histoire, on ne peut pas le nier.
Ça, c'est tout à fait exact.
C'est arrivé.
Bien sûr.
C'est arrivé pendant 1500 ans, quand même.
C'est vrai, mais c'était plutôt...
Il a construit la société.
Voilà, et puis c'était plutôt une dérive par rapport... au livre, ou une habitude qui était...
Oui, mais enfin,
à l'époque,
je méfie toujours
les régimes politiques
par rapport au livre. Le marxisme se voulait aussi une philosophie très généreuse et il n'y a eu que des dérives par rapport au livre.
Oui, mais enfin, comparer le christianisme au marxisme, Philippe Charles, vous n'allez pas avoir
des
amis.
Je ne me ferai pas d'amis sur cette radio.
Voilà. Mais j'avais une question.
On est pluraliste.
Absolument. Et courtois, en plus.
Et courtois. Restons
courtois. Question, Nicolas Bay. L'ambassadeur des Émirats arabes unis auprès de l'Union européenne était présent lors de votre conférence, j'y reviens, votre journée de conférence sur les frères musulmans. Les Émirats s'attaquent-ils vraiment aux frères musulmans et quelle est la position du Qatar qui est toujours présenté comme un grand ami de la France?
Incontestablement, parmi les États du Golfe, il y a une ligne de partage là-dessus. le Qatar est un soutien actif des frères musulmans, un soutien actif et un financier d'ailleurs du Hamas, par exemple. Le Hamas étant non...
Et du PSG.
C'est, bien. Ouais, c'est bien le problème. C'est que ça leur vaut une popularité extraordinaire, alors qu'ils sont très dangereux.
Bien sûr, et on a donné des avantages immenses, des avantages économiques immenses à des pays comme le Qatar pour faire des investissements en France, acheter des biens immobiliers, acheter des clubs sportifs, etc. Donc, ce qui est certain, c'est que la question des frères musulmans et de l'islam radical, elle pose la question en géopolitique, en politique extérieure, de nos alliances. Elle pose la question de la redéfinition de nos alliances. On ne peut pas... Et d'ailleurs, c'est toute la difficulté, par exemple, avec la présence de la Turquie dans l'OTAN.
Est-ce que c'est pas, comme pour l'Algérie, une manifestation de la naïveté occidentale?
Et encore une fois, c'est jamais que la naïveté, c'est la naïveté cumulée à la lâcheté, au cynisme, au clientélisme.
Ouais, c'est ça. Voilà.
Et quand vous avez les quatre ingrédients, bah à la fin, oui, on laisse faire. Certains par bêtise ou par naïveté, mais d'autres avec des intérêts économiques qui supplantent pourtant des considérations morales qui devraient exister.
Simplement un petit mot, si on regarde l'histoire récente, les chancelleries occidentales ont quand même fait preuve d'une grande immaturité. Ne fût-ce que l'arrivée de l'ayatollah Khomeini au pouvoir en 1979, je veux dire... C'est un peu notre enfant. Hein.
Allez, on continue encore 3 minutes avec vous, Nicolas Bay. C'est passionnant. Et on va parler du dysfonctionnement européen, de sa propension à nourrir ses propres adversaires ou ennemis mortels. Vous en avez parlé tout récemment.
Reste en Courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Philippe Charlès, Yves-Marie Sévillan et Gérard Gachet autour de la table, nous recevons Nicolas Bay. Vous êtes député européen, vice-président du groupe des conservateurs et réformistes européens à Strasbourg et vice-président de la délégation à l'Assemblée parlementaire Afrique-Union européenne, Afrique-UE. On est vraiment, donc, je le disais, au cœur du dysfonctionnement européen et de sa propension à nourrir ses propres adversaires ou ses ennemis mortels. On a parlé de l'Algérie tout à l'heure. Vous avez épinglé, ce 27 avril, vous étiez à la tribune de l'Assemblée de l'Union européenne, d'autres États qui reçoivent de l'argent de l'Europe et qui ne sont pas nos meilleurs amis. Et dans votre viseur, il y avait notamment la Banque européenne d'investissement, la BEI. Expliquez-nous.
Quand on regarde les pays qui ne se comportent pas, c'est le moins qu'on puisse dire, comme des alliés de l'Europe, mais qui bénéficient des subsides européens, on voit qu'il y a des pays, par exemple, comme la Turquie. La Turquie, on a mis fin officiellement, on a suspendu la procédure de préadhésion de la Turquie à l'Union européenne, mais en pratique, on a maintenu la procédure de sorte que la Turquie continue de toucher chaque année des fonds de préadhésion de la part de l'Union européenne.
Vous citez un chiffre, 50 milliards d'euros.
Alors, oui, alors ça, c'est l'ensemble cumulé sur 20 ans.
C'est sur 20 ans.
Voilà, sur 20 ans, la Turquie...
Ce que l'Union européenne a donné à la Turquie sur 20 ans.
Sur 20 ans,
c'est quand même prodigieux.
Alors, au titre principe, 4 fonds différents, les fonds de préadhésion, les fonds de maîtrise de l'immigration, ce que, évidemment, la Turquie fait fort mal. En général, elle fait plutôt du chantage migratoire, mais on lui a versé 6 milliards d'euros pour maîtriser les flux migratoires.
Toujours sur 20 ans.
Alors que
en provenance de Syrie.
Voilà, dès qu'il y a une tension, la Turquie immédiatement met la pression sur la Grèce, sur la Bulgarie, etc., en mettant directement ces migrants devant les grillages, en disant on peut à tout moment ouvrir les vannes, mettre l'ensemble de l'Europe sous pression. Les fonds de la Banque européenne d'investissement, à eux seuls représentent 25 milliards d'euros sur 20 ans au bénéfice de la Turquie. Et il faut ajouter un quatrième élément qui est...
Donc la moitié des 50.
Qui est, voilà, et il faut ajouter l'union douanière dont la Turquie bénéficie avec l'Union européenne depuis 1995, ça va faire 30 ans. C'est un cadeau commercial extraordinaire qui permet à la Turquie de faire 40% de son commerce extérieur sur le marché européen. On peut dire que la Turquie est chouchoutée par l'Union européenne et sur le sujet précis de la BEI, la Banque européenne d'investissement dont on parlait.
40 milliards de commerce, c'est-à-dire que c'est le montant, la somme des importations, c'est
25,
ça
40,
vis-à-vis
40.
40% de son...
Elle fait 40% de son...
commerce extérieur sur le marché européen.
Mais on a dit que ça, 40%, ça c'était 25 milliards d'euros.
Non, non, non. Je ne l'ai pas mis dans les 50 milliards. Hein. Okay. Les 50 milliards, c'est Banque européenne, c'est Banque européenne d'investissement et l'ensemble des fonds européens.
Oui, mais
c'est
de la subvention à la Turquie. C'est 25 milliards, vous avez dit.
Oui. Oui, exactement. Ah ouais. C'est la moitié des 50 milliards que la Turquie a touché en 20 ans.
Ouais. Et ce qui est frappant, c'est des subventions européennes. Et là, on parle du marché, de ce qu'on importe.
Exactement.
C'est ça, hein.
Et alors, ce qui est quand même saisissant, c'est que normalement, la Banque européenne d'investissement, comme son nom l'indique, d'ailleurs, devrait soutenir des investissements qui soit sont faits sur le sol européen, soit bénéficient à l'Europe en étant faits ailleurs. Voilà. Là, on voit que la Banque européenne d'investissement, elle aide la Turquie sur des projets qui n'ont rien d'européen. Et là, récemment, on a un projet assez incroyable de 320 millions d'euros qui se fait au Sénégal. Et l'entité qui est bénéficiaire de ce prêt de la BEI, c'est une société d'État chinoise, société publique.
C'est extraordinaire.
Il faudrait quand même nous expliquer à un moment donné à quel titre l'argent européen ou l'argent de la BEI pourrait être utilisé au bénéfice d'une entreprise d'État chinoise, pas une entreprise privée, une entreprise d'État, dans des investissements d'infrastructures, je crois, qu'elle fait sur le sol sénégalais. Voilà. On est quand même très loin de nos intérêts européens.
C'est presque aussi farfelu que certaines subventions de la mairie de Paris.
Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Si vous regardez en France, vous pouvez trouver ce genre d'exemple.
Hein. Sachant
dans l'aide au développement, je crois que c'était Sarah Knafo qui avait repris un certain nombre d'aides au développement. C'était lunaire et rocambolesque.
Hein. Bien sûr.
Exactement. Et en fait, ça illustre d'ailleurs toujours le même problème de fond. C'est qu'on est aujourd'hui dans un climat international de résurgence des nations, des identités, des protections. La Chine, l'Inde, les États-Unis, le Japon protègent leur économie, défendent leurs intérêts, investissent leur argent à leur bénéfice direct et immédiat. Et nous, on continue de dilapider au bénéfice du monde entier en se donnant bonne conscience, alors que ça nous déclasse sur la scène internationale.
C'est ce que j'appelle le suicide sur l'autel de la vertu.
C'est ça, Philippe Charlès. Est-ce que les partenariats avec l'Afrique...
C'est beau comme du
Charlès. Vous dites que les partenariats avec l'Afrique ne doivent pas sacrifier nos intérêts. On rejoint la question migratoire. Il faut conditionner tout accord économique ou commercial à un strict contrôle des flux migratoires et à l'automaticité dans la réadmission des clandestins. C'est tellement de bon sens qu'on se demande pourquoi ça n'existe pas.
Oui. En fait, la plupart
Ça passe par l'Europe, ça c'est en cours, c'est un projet, une idée. Est-ce que ça pourrait se matérialiser?
Il y a les aides à certains pays qui sont faites directement par les États, et la France en fait énormément. Et Philippe parlait de l'aide au développement. On intervient dans énormément de pays, pas toujours à bon escient, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais au niveau européen, c'est la même chose. C'est un deuxième étage, en quelque sorte, d'aide, de subventions qui sont accordées dans tout un tas de pays. Or, le critère, moi je ne suis pas opposé à ce que dans certains cas, on finance des projets à l'étranger. Mais il faut trois conditions. La première condition, c'est que ce soit des pays qui se comportent comme des amis et des alliés stables et fiables. La deuxième condition, c'est que ça s'accompagne, au-delà de la seule question économique, d'un environnement politique favorable, c'est-à-dire d'un accord, notamment sur les questions de maîtrise des flux migratoires, avec automaticité, par exemple, des laissez-passer consulaires, qu'on n'ait pas besoin de pleurer pour attendre le laissez-passer consulaire pendant qu'on a un OQTF, etc. Et la troisième chose, c'est que ce soit quand même nos entreprises, et pas les Chinois, qui bénéficient aussi de ces marchés sur... Quand, par exemple, on construit un métro ou un pont ou une infrastructure de télécommunication ou digitale dans un pays d'Afrique, et c'est utile parce que ces infrastructures sont le préalable, en quelque sorte, au développement économique, donc c'est très utile. On met de l'argent, le minimum qu'on peut en attendre, c'est que ce soit quand même des entreprises françaises ou européennes qui, sur place...
mettent en œuvre les
travaux. Enfin, alors qu'aujourd'hui,
c'est vraiment une poupée russe. Hein. Souvent, chaque fois qu'on soulève le couvercle, il y en a une autre à l'intérieur.
Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet parce que comme la France s'est retirée du continent africain, aujourd'hui, ce sont les Chinois qui partout se sont déployés en Afrique. Et eux, ils n'ont aucun complexe. Ils arrivent avec des capitaux. Ils mettent en œuvre.
Avec des ressources humaines aussi.
Oui, exactement. Ils viennent avec leur propre main-d'œuvre, avec leur propre personnel.
Je l'ai connu au début des années.
Et ils sont dans une logique de prédation.
Quand j'étais expatrié à Luanda en Angola, les Chinois construisaient la gare de Luanda. Et en fait, il n'y avait pas un seul ouvrier angolais dans les équipes qui construisaient la gare. C'était un projet chinois avec des ouvriers chinois.
Allez, Nicolas Bay, vous restez avec nous si vous voulez. Hein, je rappelle que vous êtes député européen et nous allons passer à la suite du programme. Nous aurons tout à l'heure notre clin d'œil culture que vous attendez tous avec impatience, j'en suis sûr. Mais auparavant, on va parler de l'inconscience de la gauche à rond sur un fleuron français, le groupe Total.
Reste en Courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
On n'en a pas fini avec le sketch gouvernemental et le sketch LFI sur le prix de l'essence. Le syndicat des distributeurs de carburant indépendant va saisir l'autorité de la concurrence. Philippe Charlès a suivi tout ça. Il m'écoute. Le réseau Total pratique des prix que personne d'autre ne peut pratiquer. Voilà ce que déplore ce syndicat sur France Culture par la voix de son conseiller national. En clair, pour ses concurrents, Total ne vend pas assez cher. Mais pour la presse de gauche, Total vend trop cher. Après l'annonce des 5,4 milliards de dollars de profits au premier trimestre 2026, toute la presse participe au lynchage de Total. L'Humanité traite Total de profiteur de guerre. Le Canard Enchaîné estime que Total profite de son monopole, de son quasi-monopole privé pour augmenter ses prix et ses profits, puis utiliser ce pactole pour faire pression sur les décisions politiques en dépensant plus de 1 million d'euros par an en lobbying, ce qui pour Total est quand même assez peu, 1 million d'euros, mais bon, voilà, ça paraît beaucoup en tout cas à nos amis de gauche. Côté politique, le groupe Total a trouvé une Torquemada en jupon qui ne donne pas dans la dentelle. On va l'écouter. Total ne fait pas de bénéfices en France. Écoutez donc l'attaque de la députée européenne insoumise Manon Aubry.
Bon, tout ça, c'est n'importe quoi. C'est justement bien le problème que Total ne fasse aucun bénéfice en France. C'est vrai qu'ils ont déclaré aucun bénéfice sur les trois dernières années, ce qui leur a permis de payer aucun impôt sur les sociétés. Mais ça, on peut y remédier de manière très claire. Première chose, si Total ne paye pas sa juste part d'impôt en France, c'est parce qu'ils transfèrent artificiellement leurs bénéfices vers des pays comme les Pays-Bas ou la Suisse, qui sont leurs premiers pays où ils déclarent le plus de bénéfices en Europe. Alors je vous rassure, il n'y a pas de gisement de pétrole inconnu que Total aurait découvert en Suisse ou aux Pays-Bas. La seule vraie raison, c'est qu'ils font de l'évasion fiscale, c'est-à-dire qu'ils transfèrent leurs bénéfices.
Voilà, alors Philippe Charlès, je me tourne vers vous en présence d'Yves Sevilla, notamment. Est-ce que, alors pourquoi ils ne font pas de bénéfices en France ? Alors, est-ce que c'est vrai,
d'abord ?
Et qu'est-ce que vous pensez de cette version de l'affaire ?
France, Pays-Bas et Suisse. Donc il faudrait que Mme Aubry se renseigne un petit peu, fasse un peu preuve de, je vais dire, de professionnalisme dans ses recherches avant de dire ça.
Mais voilà, je suis sûr qu'elle va vous écouter attentivement.
Absolument. Merci. Je la salue si elle nous écoute. Restons courtois même avec elle.
Absolument.
Alors d'abord, oui, Total fait très peu, sinon pas très peu de bénéfices en France, tout simplement parce que Total a deux grandes activités en France. Il a trois raffineries d'un côté et il a 3300 stations-service sur 10 000. Hein, donc c'est à peu près le tiers des stations-service en France. Et il s'agit en fait d'activités assez peu lucratives parce que Total tient en fait 70 à 75% de ses bénéfices de son activité exploration-production, c'est-à-dire de l'extraction du pétrole. Il n'y a pas d'extraction du pétrole en France. Donc Total ne transfère pas des bénéfices cachés français en Suisse et en Hollande, aux Pays-Bas. Il déclare dans tout pays les bénéfices qu'il fait dans ces pays et il paye les impôts au prorata de la loi et de la régulation locale, point barre. Donc ça veut dire qu'effectivement Total fait très peu de bénéfices en France et ça va beaucoup se voir Madame Aubry, parce que compte tenu des ristournes à la pompe, il va encore y avoir moins de bénéfices en 2026 et donc Total ne va pas encore payer beaucoup d'impôts en France en 2026. La deuxième chose, je corrigerai Madame Aubry, c'est-à-dire qu'en Hollande, aux Pays-Bas, ça n'est pas vrai, la Hollande est toujours un producteur important de gaz et Total a une filiale en Hollande que je connais bien qui produit du gaz et donc qui tient probablement ses bénéfices de là. Et quant à la Suisse, alors là c'est un cas particulier, toute l'activité trading de Total, c'est-à-dire achat et vente de pétrole brut se passe à Genève. Total n'a pas choisi la Suisse pour sa fiscalité. Les activités, le centre mondial du trading pétrolier se passe à Genève et est soumis effectivement à la fiscalité suisse qui est nettement moins élevée que la fiscalité française. Mais donc Total a choisi son activité trading en Suisse parce que le trading se fait en Suisse, point barre.
Aïe. Bravo, la cellule riposte, vous pourriez monter une cellule riposte à Manon Aubry sur le pétrole.
Montrer une... voilà.
Parce que là, c'est implacable, ce que vous avez expliqué.
Oui, ce que je veux dire, c'est que Total paye environ une moyenne de 43% sur ses impôts. 43% en moyenne. Dans des pays, ça peut atteindre 70%, c'est le cas en Norvège. Et donc, Total paye ses impôts dans ces pays tout à fait normalement.
Mais c'est d'ailleurs, on est obligé, hein, c'est une convention internationale qui fait qu'on paye ces pays dans le... Évidemment, on ne va pas les priver des impôts.
Pourquoi est-ce que juridiquement, ça n'est pas possible et moralement, c'est très contestable, je vais vous l'expliquer. Le premier, c'est que juridiquement, donc vous l'avez dit, quand on est fiscalisé dans un pays, on ne peut pas être refiscalisé dans un autre pays. La double fiscalité est illégale. Nous avons des conventions avec ces pays. Donc je doute, par exemple, que le Nigeria ou Total paye des impôts, accepte de transférer les impôts payés au gouvernement nigérian en France pour les beaux yeux de Madame Aubry. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, soyons fous, imaginons que Total fait des surprofits. Moi je considère que c'est au pays producteur, là où Total fait ses éventuels surprofits, de juger si la fiscalité est insuffisante, et cette rente pétrolière, elle revient avant tout au pays pétrolier. Donc je trouve que pour une gauche qui se veut...
C'est-à-dire aux pays qui ont des gisements de pétrole, là où puise Total, hein, c'est ça que vous voulez dire.
Je parle pas en Europe, hein, là je dans les gisements, dans l'ensemble du monde. Et donc pour une gauche qui se dit à la fois racialiste et décolonialiste, je trouve que vouloir puiser la ressource de pays que nous avons dans le temps colonisé, c'est un retour au néocolonialisme.
Intéressant. Voilà, un retour au néocolonialisme par l'intermédiaire de cette taxe de Martine Aubry. Mais Manon
Aubry. C'est pas la même.
Bon, qui se ressemble, s'assemble.
Voilà. Mais Yves-Marie Sévillard, on va réécouter Manon Aubry tout à l'heure.
Hein. Oui, je voulais simplement effectivement faire remarquer que Total Energy prenait d'autant plus sa place que la direction indiquait que par rapport à l'augmentation des revenus, ils allaient certainement passer le barème, les faisant passer dans une imposition supérieure des super-profits. Ce qui est en fonction du revenu annuel.
Ce ne sont pas des super profits qui sont faits en France.
Non. Mais la direction a annoncé que de toute façon, effectivement, elle serait de ce fait, a priori, plus imposée.
Imposée, mais où?
En France, je vous ai dit qu'il y avait en France des activités
raffinage. À cause de la holding.
Il y a des activités raffinage d'un côté, des activités distribution de l'autre. Les activités distribution totales cette année vont certainement être pratiquement déficitaires puisqu'ils vendent au niveau sans aucun profit. Par contre, l'activité raffinage qui dans les années précédentes était très déficitaire sera très bénéficiaire cette année. Donc ce qui veut dire que Total peut-être en 2026 va faire de gros bénéfices sur son raffinage sur ces trois raffineries françaises et payera au prorata de la législation française ses impôts comme dans tout pays.
Tout simplement. Alors, elle n'en a pas fini, Manon Aubry, puisqu'elle veut recalculer les bénéfices, créer un impôt universel sur les entreprises et aussi bloquer les prix.
Deuxième chose, ce que nous proposons, c'est précisément de changer la manière dont on calcule les bénéfices et dont on calcule l'impôt sur les sociétés. Avec la proposition que nous faisons d'impôt universel sur les entreprises, les très grandes entreprises comme Total, qui ont une activité dans plusieurs pays, on pourra comparer leur activité économique réelle, c'est-à-dire leur nombre d'employés, leur chiffre d'affaires, leur activité dans chacun des pays où ils sont présents, et en fonction de cela, recalculer les impôts qu'ils doivent payer. Et
Troisième chose, on voit bien que l'officialité médiatique se dit au secours, les insoumis, ils proposent le blocage des prix. Eh bien oui, rien n'empêche de faire le blocage des prix. Même mieux que ça, il y a un article qui existe et qui permet de bloquer les prix. Ça a déjà été fait sur le gel hydroalcoolique et même sur l'essence dans les années 1990. Bref, à tous les journalistes qui voudraient s'offusquer du fait qu'on veuille bloquer les prix et taxer les super-profits, oui, c'est possible. Dans le droit actuel, ce qui manque, c'est de la volonté politique. C'est pour ça qu'on a besoin de Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle. Donc continuez à signer si vous voulez taxer les super-profits et bloquer les prix sur Mélenchon2027.fr.
Bloquer les prix, signer la manifestation, Philippe Charlez.
La taxation des super-profits, je vous ai répondu, ça sous-entendrait une double fiscalité qui aujourd'hui est interdite et qui demanderait éventuellement une renégociation avec l'ensemble de ces pays, renégociation que ces pays n'accepteront pas puisque ça signifierait pour eux des pertes de revenus et des pertes d'impôts. Petit mot quand même sur la baisse du prix à la pompe et notamment les critiques que peuvent faire les associations de distributeurs. En effet, il y a des distributeurs indépendants, voire des distributeurs de grandes surfaces comme Leclerc, Super U ou Carrefour, qui eux ne vivent que sur la distribution. Ils n'ont pas ni d'activité de raffinage, ni d'activité d'exploration-production. Donc ils ne peuvent pas couvrir un éventuel déficit dans la distribution
par le raffinage.
Sur le raffinage. Et surtout l'exploration production, ce que peut se permettre Total. Donc c'est ce qui veut dire que si Total baisse trop ses prix, le consommateur sera content, mais la vente à perte est interdite en France. Deuxièmement, c'est de la concurrence déloyale. Et puis troisièmement, il y a quand même un risque de ruée à la pompe avec des troubles à l'ordre public, je les imagine très bien. Maintenant, en ce qui concerne le blocage des prix.
Oui.
Alors le blocage des prix, ça a été tenté, si c'était simple ça se saurait, ça a été tenté au cours de l'histoire dans diverses conditions. Il y a même eu un blocage des prix lors de la Révolution française, blocage des prix du grain, de la farine, et puis le résultat c'est qu'il n'y avait plus de pain nulle part et que ça a créé une famine absolument épouvantable.
Ouais. Donc ça veut dire que
le blocage des prix, surtout sur une denrée que nous ne produisons pas, parce que les trois raffineries de Total ne suffiront pas à provisionner toute la France. C'est ce que dit Madame Aubry. Quand on lui dit on va bloquer les prix, enfin elle dit je vais bloquer les prix. Donc la réponse c'est de dire s'il va y avoir une pénurie instantanée avec des queues de 3 km à chaque pompe à essence. Elle dit mais ça fait rien, on réquisitionnera. Mais on pourra pas réquisitionner puisque c'est des choses qu'on ne produise pas. Donc on réquisitionnera les trois pauvres raffineries de Total en France et puis il n'y aura plus d'essence pour personne. Ça sera le résultat, c'est évident. Et puis développement d'un marché noir aussi, parallèlement à ça.
Bien sûr, où le litre d'essence, ça sera Mad Max, comme
par exemple, ce film. Voilà.
Et où le litre d'essence vaut très, très cher. Yves-Marie Sévilla.
Oui, je remarquais effectivement le côté cocasse de l'affaire, c'est la folie socialiste de l'impôt. C'est que la direction de Total Energy c'est se retourner en disant bah, écoutez, si vous voulez nous taxer supplémentaire, nous, on va arrêter effectivement ce plafonnement qui aujourd'hui bénéficie aux consommateurs français. Donc finalement, effectivement, c'est cette folie habituelle de l'impôt socialiste qui se retourne contre le pouvoir d'achat des Français.
Ouais, exactement. Alors je dirais simplement, parce que c'est pas un sondage que j'ai fait, parce que je n'ai pas les moyens de faire un sondage, mais j'ai publié... Mais c'est presque ça, parce que j'ai publié un poste sur le sujet, sur LinkedIn qui a énormément de succès puisqu'il a fait près de 60 000 vues, ce qui est quand même, est quand même beaucoup, et près de 500 likes. Et généralement, dans les likes, vous avez plusieurs types de likes. Vous avez soit le like, vous avez le sourire.
Et puis vous avez Radio Courtoisie.
Oh, ça s'appelle un like, alors un j'aime.
Un j'aime, si vous voulez.
Et donc, il y a aussi le j'aime moquerie. Eh bien, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y en a aucun et vous n'avez que des commentaires positifs, disant effectivement que Total fait déjà des efforts, etc. On en a marre de taxer l'un des derniers fleurons de l'industrie française, etc.
Absolument.
Donc les Français ne sont pas dupes de ce côté-là.
Et M. Lisnard évoque sur France Info TV, le maire de Cannes, hein, c'est ça, le maire de Cannes, une frénésie socialiste, mais aussi à droite, hein, qui existe aussi un peu à droite,
et au RN,
tout accès, et notamment au RN.
Oui, puisque au RN, ils étaient très partagés. Ouais. Marine Le Pen était pour une surtaxation des profits, alors que Jordan Bardella était contre.
Était contre, voilà. Donc, il stigmatise, hein, une idée de tout taxer. Ce pays a le record du monde des impôts, dit-il. Taxer Total, c'est favoriser ses concurrents. Exxon, par exemple, ce qu'on veut favoriser.
Oui,
est-ce qu'on veut favoriser les entreprises concurrentes des entreprises françaises ?
Qui eux ne seront pas soumis, qui d'ailleurs n'ont aussi que des activités distribution et raffinage. Exxon, BP, Shell n'ont des activités distribution, voire raffinage. Je crois Exxon a une raffinerie. Et donc ne seront pas taxés, mais par contre Total, au contraire, sera moins compétitif que ses concurrents.
C'est ça. Donc, et puis dernier point, les surprofits. Alors c'est vrai que ça n'existe pas en économie, hein, le surprofit. J'ai vérifié ça.
Il y a des profits.
Il n'y a pas de surprofits. Voilà. Il y a des pertes. Il n'y a pas de surpertes non plus. Hein. Et donc on est le pays, dit Lisnard. Il a raison, je trouve, qui a les plus fortes taxes sur l'investissement, sur les profits. On surtaxe depuis un an et demi les produits financiers plus que le reste du monde. Et on voudrait nous faire croire que le problème du prix du carburant, c'est un problème de taxes.
C'est la dialectique de la gauche. Parce que le super profit, les surprofits.
Parce qu'au cours des deux dernières années, il y a déjà une surtaxe sur les entreprises qui font plus d'un milliard de bénéfices par an. Et de même qu'il y a une surtaxe sur les ménages qui gagnent plus de 400 000 euros par an.
Allez, on clôt le sujet Total qui nous accompagnera encore pendant un moment, j'ai l'impression. Hein, merci à Philippe Charlaise de nous avoir éclairé tout
ça. J'espère avoir convaincu Madon Aubry.
Voilà, alors il nous reste, j'espère, en tout cas vous lui avez donné beaucoup d'arguments. Notre petit clin d'œil culture doit être très très court parce qu'il ne reste plus que très très peu de temps. Juste après ceci.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Philippe Charlaise et Yves-Marie Sevilla qui sont restés. Yves-Marie Sevilla, votre clin d'œil culture.
Je voulais au départ évoquer l'exposition d'Yann Arthus-Bertrand. Non, je notais que nous fêtons ce dramatique anniversaire des 40 ans de l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, 26 avril 1986. Voilà, à ce titre-là, j'invite effectivement tous les spectateurs à regarder la série télévisée qui se nomme Tchernobyl. Vous avez aussi un certain nombre de documentaires très bien faits.
Qui se trouve où qu'on peut regarder
C'est sur les vidéos que vous pouvez acheter sur Internet.
Je dirais pas pas sur une chaîne de la TNT.
Et en l'occurrence, ensuite, vous avez des documentaires France Télé très bien faits, et en l'occurrence, qui montrent à quel point, à l'époque, au-delà de la catastrophe industrielle, nucléaire que cela a été, la compromission et la position du pouvoir communiste, qui est très intéressant, et à quel point Tchernobyl a aussi participé, effectivement, à la chute du système communiste.
Intéressant, on retient ça, Tchernobyl.
Allez, moi j'ai été voir un film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Vivaldi et moi.
20 secondes, oui.
Vraiment un très beau film qui décrit la relation entre Vivaldi et une jeune orpheline.
Ah oui, j'ai vu des petits extraits magnifiques.
Très douée en violon. Et il décrit aussi, disons, la rudesse à l'époque de la vie dans un couvent. Donc ça se passe ça se passe au milieu du 18e siècle.
18e.
Vivaldi, c'est 18e
siècle. C'est un film en costume qui a l'air très beau.
C'est un film italien et j'encourage tout le monde à aller le voir.
Magnifique. Allez, je garde ma petite idée pour la semaine prochaine. Hein. Restons courtois du vendredi. C'est fini. Merci à tous dans ce studio. Merci à la technique. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis, accompagnés, commentés. Heureux d'avoir passé ces petites heures en votre compagnie, deux petites heures. Comme Boulevard Voltaire, vous le savez, Radio Courtoisie reste un miracle permanent et fragile qui ne vit que de dons. Aider Radio Courtoisie, c'est et aider Boulevard Voltaire dans le climat actuel, eh bien, c'est un devoir. Nous, on se retrouve le vendredi 15 mai, même heure, même adresse. Restons courtois. 17h30, 19h30 sur Radio Courtoisie avec Boulevard Voltaire et toute la joyeuse bande. Cette émission, la semaine prochaine, sera exceptionnellement animée par Jean-François Coulon-Désart. Ce sera formidable, j'en suis sûr, je serai collé au poste. Je ne sais pas vous, mais eux, ils ont déjà hâte.
Ça suffit maintenant !